éphémère, 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 10 décembre, il fait gla gla dehors et bondé dans les magasins et vous écoutez la radio. Comme tous les samedis, éphémère ouvre avec les programmes Supplément Week-end, BT Télévision. Ah, Thomas il boude. Non, à mon avis, il est resté chez lui pour écouter Radio Radio tranquille. Ah. Puis le cahier du sport à partir de 14h à partir de 13h, excusez-moi, jusqu'à 15h. Et à partir de 15h du mix avec Zarma Farai, c'est du reggae. Vie d'ordure à 17h, c'est du punk. 19h, Dada. 20h, Last Hétéro Experience avec DJ Tro. Et quand c'est trop, c'est Tropico. 21h30, Liquid Sky. Et, 22h, et de 22h30 jusqu'à 3h du matin, Breakbeat Experience avec Peyo et SKS et évidemment de la drum and bass. Et ce soir, il y a une soirée des illustres inconnus. Ça a lieu à la péniche, le cri de la mouette. On vous passera la publicité tout à l'heure. Alors profitez-en bien parce que franchement, il y a de quoi faire aujourd'hui.
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
Hein, Thomas? Allez, jamais écouté de radio. Non, je déconne. Il sera de retour la semaine prochaine. Oui, je sais, il m'a fait mentir cette semaine. Mais bon, voilà, c'est un peu normal. Émission un peu légère aujourd'hui. Il faut dire que je suis en gros, gros manque de forme. Ça arrive des fois, mais que voulez-vous? Quand on ne sait plus comment partir, je sais plus comment envoyer des fois. On s'en fiche, hein. Après tout, il suffit de balancer la sauce. Et puis après, ben, ça vient absolument tout seul.
Pastor.
Et pour commencer, en guise de générique, Bomb the Bass with Justin Warfield. Extrait de l'album Clear, Bug Powder Dust. C'est le nom du morceau, Bug Powder Dust. Un excellent album d'ailleurs, je sais pas, j'étais en train de mettre des morceaux au hasard dans mon ordi. Et je suis retombé donc sur ce vieil album avec une télé photographiée en négatif et sorti chez un label indépendant Fourth on Broadway. Et qui est assez vieux d'ailleurs, qui date de qui date de 1994. On y retrouve Spike Eaty, Carlton, Bim Sherman, Leslie Wayney et s'il vous plaît, Benjamin Zephania et Sinead O'Connor. Et Bomb the Bass, quand même, ils étaient extrêmement en avance à l'époque sur pas mal de genres musicaux. Ouais, comme quoi. C'était distribué en France chez Island, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Et faites gaffe, hein. Je suis en train d'enlever un peu la poussière chez moi, donc je ressors les vieux disques. Et tout à l'heure, il y aura... C'est pas un vieux disque. C'est un groupe local qui, donc, s'est fait auto-éditer, finalement. Qu'on a reçu, qu'on a fait jouer... en live ici dans cette émission, puis ensuite qu'on a fait jouer après dans un bar, et qu'on a été bien content quand même d'avoir aidé à faire connaître, et j'espère qu'ils auront beaucoup de notoriété. On vous le fera entendre tout à l'heure. Ah oui, c'est une programmation qui est plutôt soft. Il y aura pas beaucoup de BD qui seront chroniqués cette semaine parce que voilà, hein, légère baisse de forme, je suis vraiment mais pas bien du tout physiquement. On va essayer quand même de la faire cette émission parce qu'on est professionnel jusqu'au bout, et voilà, bah non, pas du tout, on n'est pas payé, c'est une émission bénévole. Et d'ailleurs, ce serait sympa si vous nous donnez de nos retours. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Vous cherchez les émissions, celle du samedi, supplément week-end, voilà. Et vous allez sur le site internet de la radio et vous dites, ah, mais ça, j'ai... Vous allez sur le site, donc, dédié à l'émission supplément week-end. Vous dites, oh, ça, j'ai aimé, ça, j'ai pas aimé. C'est sympa ce que tu as passé là. Tu as parlé de tel BD, tu as dit que c'était une bouse, je suis pas d'accord. Allez-y, c'est fait pour ça. Et puis, en plus, vous verrez, ça se passe plutôt bien. Et en plus, vous pouvez réécouter les précédentes émissions. Là, j'ai mis une archive des briefs d'Angoulême 2003. Et à l'époque, c'était JB. Cette émission s'appelait Brouillon de Culture. Et tout à l'heure, je dis ça pour ceux qui nous écoutent via Internet. Il y aura aussi, à la suite, la première heure de Du Sport. De Ça, c'est du sport qui commencera à 13h pile. Exceptionnellement, tout simplement parce que il va parler évidemment du tirage de la Coupe du Monde de foot de la FIFA. Bah oui, Du Sport, c'est d'abord Du Sport avant d'être de la série télé et les choses du petit écran. Donc je redonne le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Et il y a même le stream de la radio, ça veut dire que si vous avez du mal à nous capter, vous aurez peut-être une meilleure possibilité pour nous entendre justement par internet. Et il y a des archives, il y a des expos virtuelles. On va prochainement d'ailleurs peut-être en mettre une en ligne et on verra. Autre info aussi, tout à l'heure, ceux qui sont fidèles à cette émission ont découvert une nouvelle rubrique qui s'appelle le top 5. Il faut être à 12. Donc là, je suis en train de meubler le temps que Du Sport arrive. Il faut être à 2 pour le faire. Il s'agit du prix de l'ACBD, l'association et critique de la bande dessinée, qui a été remis lundi dernier. On a le vote intégral. Donc le top 5 sera consacré à ça. Ce sera une sélection supplémentaire de bande dessinée. Faite par des critiques, quand même, qui sont, je vais pas dire guindées, hein, non. Et je suis dans l'eau, alors attention. Ça risque d'être, je veux dire, peut-être un peu spécialisé. Mais en tout cas, il y a vraiment de bonnes surprises à découvrir. Ça, vous le découvrirez tout à l'heure. Là, j'ai eu très très chaud. J'ai eu un lecteur CD. Pour les intimes de la radio, c'est le lecteur CD2 qui est parti en écoute des 30 dernières secondes du morceau. Donc j'ai dû rebooter au dernier moment. C'est pas sympa. Faut arrêter Bill Gates. Faut qu'il arrête de foutre du Windows partout. C'est une catastrophe. Parce que là, j'ai vraiment eu très peur. Donc on va peut-être commencer avec les chroniques bande dessinée avec Hellboy, Histoire bizarre, le volume 2. Vient d'arriver chez Delcourt, c'est toujours Mike Mignola qui est donc le créateur de Hellboy, sauf que cette fois-ci il n'est qu'au scénario et c'est un collectif de dessinateurs qu'il y a derrière. Bon, Hellboy. Oubliez le film qui n'est pas très convaincant sur cette histoire de démon qui a été invoqué par les nazis et qui chasse les nazis et autres méchancetés supernaturelles qui sont aux mains des forces du mal. Découvrez plutôt la BD de Mike Mignola, dont le style graphique est reconnaissable à des kilomètres. Certains disent qu'il est plus inspiré d'Andreas que de Kirby, c'est clair. Il y a vraiment une inspiration européenne qui est flagrante. Mais l'histoire de ce démon, donc invoqué par des fascistes qui voulaient lui faire tuer de la race inférieure, qui s'est retourné contre ses maîtres et qui maintenant fait partie du BPRD, le Bureau de Recherche sur les Phénomènes Paranormaux, et donc combat les singularités. C'est des petites histoires complètes, très variées, chacune, qui est dessinée par un dessinateur très connu, en tout cas assez talentueux, qui vient soit de l'industrie du comics, bien sûr, du comics mainstream, mais aussi des indépendants et du reste du monde. Quand on prend l'affiche, on est assez surpris justement des personnes qui y participent, puisque on y retrouve Asamiya, c'est le dessinateur de Silent Moebius, c'est un mangaka, Craig Thompson qui a fait l'excellent Blanquette, et Craig Thompson n'est absolument pas dans le mainstream, loin de là. Dans le mainstream, il y a Jim Starlin qui fait Marvel Universe, Dave Stevens qui fait Rocketeer, cette BD au look délicieusement rétro, style années 50, alors qu'elle a été créée dans les années 80, et plein d'autres, et comme John Cassady, qui est le créateur de Planetary. Bref, c'est vraiment une belle surprise, parce qu'on a vraiment une pléiade de vedettes qui est loin d'être inintéressante, et c'est... Chacun a un style graphique très très différent et Mike Mignola a une très belle ouverture d'esprit parce que du coup il aura cousu à chacun un scénario mais vraiment sur mesure. On est très surpris par la première histoire des vacances de Hellboy en enfer qui est dessinée un peu manière illustration de moine, vous voyez, du Moyen-Âge. C'est vraiment surprenant pour du comics et c'est agréable à lire, c'est étonnant. C'est néanmoins à réserver aux fans de la série principale, car vous aurez du mal à suivre, vous aurez toutes ces sautes graphiques, et ensuite, il y a un autre souci, c'est que, tout simplement, Hellboy, c'est une histoire qui, mine de rien, est assez riche, et là, on est vraiment dans une sous-histoire, c'est pas évident d'y accéder. Hellboy, Histoire bizarre, volume 2, il porte bien son nom, hein, franchement, ce bouquin, c'est aux éditions Delcourt, Mike Mignola au scénario, et un collectif de dessinateurs derrière qui assure vraiment bien. Radio éphémère, il est midi, 15 minutes, 7 secondes et 777 millièmes sur l'horloge atomique de la poubelle des radios. C'est supplément week-end, BD et télévision. On est dans une ambiance qui est là aussi surnaturelle, mais je vais dire beaucoup moins flagrante. Kyoko Karasuma, inspecteur à Arasaka. Oh punaise, c'est pas vrai. Bon, on rembobine. Kyoko Karasuka. Je vais y arriver, troisième. Kyoko Karasuma, inspecteur à Arasaka. Le premier tome vient de sortir, c'est Oji Heihoi qui fait le scénario et Yosuke Kozaki qui fait le dessin. C'est édité par Taifu Comics. On va dire qu'on est vraiment dans un tout autre univers. On est dans le Tokyo, dans un futur proche. On est en 2050-2060, où l'habitat traditionnel a presque définitivement cédé sa place aux grands immeubles. Gros souci des onis. On peut traduire ça par des démons si vous préférez. S'en prennent aux humains justement pour ça, parce qu'ils sont chassés de... Ils ont plus leur temple, ils ont plus leur coin secret, ces lieux nimbés de mystère et de nature. C'est une très jeune fliquette, une inspectrice, à, tenez-vous bien, l'âge de 16 ans, qui va tomber sur ces histoires donc de meurtres d'humains, tellement bizarres qu'en fait on en vient à soupçonner les onis. Et évidemment que sa hiérarchie tente d'étouffer, parce qu'il est plus facile de continuer à ignorer ce qui ne semble pas rationnel qu'à accepter le fantastique. Plus que de l'action, c'est l'ambiance, le fantastique qui mène le bouquin. Et l'intime mélange, qui est très japonais quand même, entre le modernisme et la tradition... Et bien ce mélange-là vole littéralement en éclats pour un retour en arrière. Ainsi, les flingues, au fur et à mesure que l'on avance dans le premier tome, se font de plus en plus discrets, alors que l'enquête avance pour des combats de sabres, d'épées, de katanas. Et je parle bien d'enquête parce qu'effectivement, on a vraiment des scènes d'atmosphère, des scènes d'enquête. En soi, ce n'est pas un manga exceptionnel, mais quand on met de côté un script convenu, on y trouve une belle originalité dans la narration et la progression qui est servie par la très très riche mythologie shintoïste. Je rappelle que le Shinto, c'est une philosophie religieuse qui mêle à la fois le bouddhisme et le polythéisme. Et en plus, on est servi par un dessin aérien qui est assez étonnant. Kyoko Karasuma, inspecteur à Arasuka. Le premier tome donc vient de sortir chez Taifu Comics. Le scénario est signé Hoiji Hiroi et le dessin est de Yusuke Kozaki. Ça y est, le Père Noël est arrivé. Il a raccourci sa barbe. C'est pas pour rien que j'ai parlé de manga, c'est vrai que j'ai fait une sélection très courte. Le troisième bouquin n'est pas une fiction, c'est une œuvre documentaire, mais attention, pas de bande dessinée, mais sur la bande dessinée. Paul Gravitt vient de sortir un pavé, vraiment très bien, il s'appelle Manga, 60 ans de bande dessinée japonaise, il est traduit en français aux éditions du Rocher. C'est un gros pavé, bourré d'illustrations, particulièrement sérieux, car il ne sombre pas dans la facilité quand on essaie de faire une œuvre sur ce genre. Au contraire, il se montre très didactique, il parle de l'ensemble des styles, des genres, des publications, de ceux qui l'écrivent, de ceux qui le publient, de ceux qui les lisent, la segmentation du public, donc japonais, de bande dessinée, les références culturelles, les influences et ceux qui s'en sont inspirés. Alors le sujet est extrêmement vaste, mais Paul Gravitt a réussi à très bien le réduire dans les 178 pages. Même pour quelqu'un de blasé de la bande dessinée et qui ne s'arrête pas qu'à la manga mainstream, mais aussi aux productions plus artistiques, plus réduites, plus adultes, plus intellectuelles, il y a de quoi apprendre, vraiment, littéralement. C'est un livre référence, un travail d'érudition qui est dans la même qualité qu'un livre, par exemple, de Jean-Paul Jeunequin sur le comics. Seul dommage, les traductions des bulles sont restées en anglais, et pour le coup, reprendre les versions françaises aurait peut-être été intéressant. Mais ne boudons pas notre plaisir. C'est un beau pavé, carré, très bien présenté, riche en illustrations, ce qui est très rare quand on connaît la difficulté d'obtention des droits auprès des éditeurs japonais. Ils sont vraiment extrêmement tatillons là-dessus, et dont le texte doit largement être plus juste que la plupart des livres traitant de sujets. C'est-à-dire, si vous prenez un bouquin de Filippini, ça n'aura rien à voir, quoi. J'aurais juste un regret à propos de ce bouquin, en gros. Paul Gravitt est quelqu'un que je respecte énormément. C'est un universitaire de la BD dont je suis quand même le travail éditorial. Et aussi de conservateur, puisqu'il a été le curator du Comics Found, le musée de la bande dessinée à Londres, où avec de modestes moyens, il a réussi à valoriser le patrimoine de la bande dessinée dans un pays justement qui est sinistré de ce côté-là. Il est très difficile de trouver de la bande dessinée indépendante anglaise, Slab of Concrete par exemple a mis la clé sous la porte, c'est vraiment dommage quoi. Il m'avait demandé il y a 3 ans de lui envoyer les interviews que j'avais faites de mangaka et malheureusement je ne lui ai pas expédié, je le regrette car le sérieux du travail de Paul Gravitt aurait valu toutes les possibles sur un sujet aussi vaste et casse-gueule. Et franchement, il s'en sort très bien et là-dessus, ça s'appelle une claque. Paul Gravitt, manga, 60 ans de bande dessinée japonaise aux éditions du Rocher. C'est peut-être l'occasion de déniaiser le petit neveu qui regarde les Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiaque. Du sport s'installe, mais tout de suite donc... Mars on My Way, c'est le nom du morceau. Vous allez voir, ça aurait pu être dans Cowboy Bebop. Et pour moi, c'est un gros compliment. We'll be right back. en plus, la fin du premier morceau fait vraiment penser à The Who, tu sais, dans le genre, les génériques de CSI. Il s'agit d'un groupe que j'avais reçu, que j'ai eu l'honneur de passer pour la première fois à la radio, les avoir fait jouer en live dans cette émission, de les avoir fait jouer dans un bar. Il s'agit de Recife. Recife, c'est le nom d'une ville. Hein. Donc voilà, si vous voulez savoir, excuse-moi, Dus, vas-y.
Recife.
Recife. Et oui, c'est au Brésil et voilà, ils sont super sympas. Donc il s'agit donc de Mars on My Way. À l'époque, le morceau avait une autre masterisation. Là, leur premier album est sorti depuis bien 6 mois. New Hams, c'est chez les Electroïdes Associés, un an même. Donc vous le trouvez dans tous les disquaires indépendants sur Toulouse. Et enfin, faut y en dire, d'ailleurs, je crois qu'on doit avoir des traces de l'ancien mixage sur mon site, quelque part. Va falloir bien chercher, à mon avis. Et ben du sport. Donc je vais requérir ta participation.
Alors, déjà ?
Ah ouais. Ben oui, hélas. Puisque donc, bon allez, le temps que tu t'installes, dans ce cas-là, j'annonce les autres prix. Puisque donc il y a bientôt Angoulême qui aura lieu du 26 au 30 janvier, si je me trompe. Donc le festival de la bande dessinée d'Angoulême avec évidemment les prix qui avant s'appelaient les Alfred, puis ensuite les Alphards et maintenant ça s'appelle le prix du festival d'Angoulême, enfin un nom complètement passe-partout. Je ne vais pas dire qui est le fautif parce que ce serait faire de la pub pour Jean-Marc Thévenet. Mais bon, donc le jury œcuménique de la bande dessinée a décerné son prix valeurs humaines. Donc le jury œcuménique rassemble donc différentes, enfin les grandes religions là-dessus, et qui est décerné, je vais dire, par des comités religieux. À l'aigle sans orteil de l'Axe, édité chez Dupuis. Du sport, tu l'as vu, l'aigle sans orteil. Mais si, l'histoire du cycliste sur les premiers jours du Tour de France.
Oui, ok, voilà. Ça y est, j'y suis.
Et sur donc l'histoire de la construction du Pic du Midi. Donc voilà, oui, donc oui. Il a eu le prix du jury œcuménique de la bande dessinée.
Ah, pas mal.
Et ça vaut vraiment le coup. Le prix de René Goscinny, c'est un prix qui concerne un nouveau scénariste. On a eu des surprises puisque ainsi il y a Jean-Pierre Gibra, qui est un dessinateur qui est pourtant bien établi, qui l'a eu parce que c'était son deuxième scénario, je crois. Il faut pas avoir fait plus de 3 scénarios publiés. Ben, le prix René Goscinny est revenu à Pau Note pour une histoire de guerre de JP chez Actes Sud BD. Alors gros hic quand même auprès du milieu critique, c'est que ce dessinateur italien, eh ben il aurait déjà scénarisé pratiquement une dizaine de scénarii, donc c'est pas un jeune scénariste. Bon, parmi les membres du jury, par contre, elle a une belle ouverture d'esprit. Puisque c'est pas des gens qui sont vraiment spécialisés de la bande dessinée qui en font partie. Il y a Anne Goscinny, la fille donc du célèbre scénariste René Goscinny, et qui est romancière. Zep, évidemment, le créateur de Titeuf. Frédéric Bossé, qui est le directeur de publication du Bulldozer, qui est une nouvelle revue sur la bande dessinée. Ça, c'est Thomas qui en parlera un de ces jours, j'espère. Jean-Marc Thévenet, qui est le directeur du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Cédric Kaplitsch, le réalisateur. Isabelle Morini-Bosque. Je suppose que certains doivent savoir ce qui c'est.
C'est une nana qui fait
des chroniques télé
dans le TV Magazine. C'est elle qui signe l'édito chaque semaine du TV Magazine, tu sais, le TV
que t'as
avec la dépêche. Et elle a également une émission qui parle de la télé, c'est sur RTL, me
oui, semble.
C'est le matin, hein, c'est 8h, 9h, un truc comme
voilà,
ça.
Voilà, puisque après c'est Morandini sur Europe 1. Et puis elle participe des fois aussi au Grand Journal.
Et on l'a déjà vu à la télé, je me rappelle pas dans quelle émission, mais elle est
oui,
déjà
le Grand Journal.
Peut-être.
Ouais. Il y a Marc-Olivier Fogiel aussi qui faisait partie du jury. Thomas Valentin qui est le vice-président de M6 en charge des programmes. Donc quand même leur avoir fait lire des BD de débutants entre guillemets. Hein. En tout cas c'était bienvenu et plutôt intéressant. On va entamer le top 5. J'ai changé de top sonore. Ah mince, 12h32. On me fait signe qu'il faut que je passe la pub.
Les
Les Illustres Inconnus présentent Soirée in Progress version 1, samedi 10 décembre de 22h à 5h du mat, Battles of DJ and VJ, VJ Sacosette, DJ Bob Sagart, Alex Escalofrio, Franck de Villeneuve, Péniche, Le Cri de la Mouette, Place Héraclès, PAF 5 euros.
On va y aller avec le top 5. Ah, du sport, lui, il s'est précipité sur le bouquin. Non, lui, il n'en fait pas partie. Il est hors concours. Lui.
C'est pour la semaine prochaine, non?
Ah ouais. Enfin, à mon avis, là, je crois que tu vas passer un Noël heureux, là, avec.
Ouais. J'ai déjà essayé de terminer le complot, hein, de Will Eisner.
Alors?
Ah oui.
Le complot, énorme.
Bien sûr.
Énorme. T'as moins aimé, par contre.
Ouais, alors
l'histoire secrète, voilà. Oui.
Ouais, l'histoire secrète. Alors bon, bah ouais, ça surfe vraiment sur la vague des histoires avec des complots, des machins.
On nous cache tout, on nous dit rien.
Ouais, le Da Vinci Code, des trucs comme ça. Enfin bon, c'est bien quoi. Ça, pour des gens qui aiment ça, il y a pas de problème. Hein, c'est une approche intéressante, on va dire. C'est pas mal. Au fur et à mesure, moi je trouve que ça commence déjà à déliter dans le deuxième, quoi. Tu vois, quoi. Le premier, bon, c'est limite. Le deuxième. Enfin bon, j'apprécie pas trop. Il faut reconnaître que c'est quand même bien dessiné, que l'histoire, le scénario, ça va quoi. Il y a quelque chose quoi quand même. Et alors accro de la techno, hein, de petit Luc et de mes potes Johan et Arty. Bon, c'est connaissant les personnages, je dirais que Arty prend le dessus quoi. Il y a pas de problème. Il hein, y a plus de texte que d'images quoi, de toute façon quoi. Mais bon, voilà, hein, c'est pour c'est de la déconne, hein, de toute façon quoi. Restez.
On va entamer, mon cher du sport, tu peux y aller, c'est...
Le numéro 5.
Excuse-moi, j'ai coupé trop tôt. Donc, le top 5 de la bande dessinée. Donc, le top 5, c'est cette semaine où nous avons pris le prix de la critique de la bande dessinée. Bon, je fais partie du jury. On a sélectionné l'ensemble des sorties jusqu'à à peu près novembre. On a fait ça en 3 rounds. Le dernier round se fait sur une sélection de 5 titres. Qui dit 5 dit vote, dit, eh oui, top 5. Alors, on y va avec un ex-aequo pour commencer. La bicyclette rouge de Kim Dong-hwa, je sais pas qui, tu l'as là sous la main.
Oui.
C'est des petites histoires colorées sur un facteur et sa tournée dans un petit village où les adresses ont des noms aussi poétiques que les histoires. C'est frais, c'est vivant, c'est coloré, c'est en provenance donc de Corée du Sud. N'est-ce pas ?
Mais c'est pas...
Numéro 4.
Ben non, j'ai dit que c'était un ex-aequo.
5.
Il s'agit donc de Malé de Nicolas Junker. On en a parlé en janvier dernier. Il s'agit donc de la petite histoire d'un coup d'état loupé contre Napoléon, un fiasco digne d'une république bananière où ni la police ni la politique n'en sont ressortis intacts. Le général Malé, à défaut d'entrer dans la grande histoire, ne restera qu'une anecdote digne du canard enchaîné. C'est en noir et blanc, c'est chez Très Étrange donc qui maintenant se fait éditer par les éditions Milan. Sport.
Numéro 3.
Il s'agit donc de Bonne Santé de Charles Masson, c'est chez Casterman. Ceux qui lisent Martin Vinclair comme la maladie de Saxe et ceux qui font médecine connaissent ce moment qui est assez difficile. Comment annoncer aux patients une maladie mortelle à coup sûr et donc en phase terminale, et ben c'est pas évident. Là justement, et ben ça allait raconter pourquoi. Ben primo parce que l'auteur est un médecin du CHU de Lyon et donc est justement affecté à ce service. Ce sont 6 histoires où se mêlent les larmes et les rires. C'est un peu le Say Hello to Black Jack en bande dessinée française.
Numéro 2.
Il s'agit de Période glaciaire de Nicolas de Crécy, c'est le frère de Étienne de Crécy et c'est aussi celui qui donc a aidé au début au triplet de Belleville qui sera diffusé ce Noël sur France 3. C'est chez Futuropolis et c'est coédité avec un musée et vous allez vite comprendre lequel. C'est l'histoire d'une gigantesque glaciation qui recouvre l'Europe. Les savants désemparés tentent de comprendre une civilisation disparue lorsqu'une des entrées d'une ville mythique réapparaît. et il se trouve qu'il s'agit du Louvre. Et ces œuvres d'art sont revues en toute innocence, donc par des gens qui arrivent et qui débarquent complètement, qui ont aucune référence culturelle par rapport à notre civilisation. L'idée est pas trop mal, mais moi le traitement, je l'avais pas trouvé excessivement super. Voilà quoi. Moi j'ai pas trouvé ça génial. Du sport.
Numéro 1.
Il s'agit des mauvaises vents, des mauvaises gens. Une histoire de militants, c'est d'Étienne Davodos chez Delcourt. Étienne Davodos s'était essayé à la bande dessinée reportage semi-fictionnelle avec Rural. En fait, c'était pas fictionnel, c'était l'histoire de paysans, d'agriculteurs qui se retrouvaient bientôt expropriés à cause d'une autoroute. On avait les deux côtés. On avait le côté de justement des décideurs et de l'autre côté de ceux qui vont voir passer ce ruban de métal, de béton et de goudron. Et ben le revoilà avec une histoire du militantisme de l'après-guerre à 1981, vue par les ouvriers dans le Maine-et-Loire. Le tout s'est vu par une famille. Cela va des parents qui ont quitté à l'après-guerre l'école pour entrer bosser à l'âge de 14 ans, l'engagement dans les jeunesses ouvrières catholiques et la montée du militantisme socialiste au fur et à mesure. Étant donné que ce livre donc a le prix de l'Association des critiques de la bande dessinée, que j'en suis membre, je me dois de vous le présenter de manière enthousiaste et complète, mais pour cela, ça fera l'objet d'une future chronique et peut-être d'une interview. Voilà. Je tiens à remercier Gilles Ratier pour la tenue donc du prix de l'Association des critiques de la bande dessinée. Et puis voilà, et j'en suis très heureux. On redonnera donc le top complet sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Excusez-moi, voilà, je viens de me tromper. Du sport, c'est à toi. Bah oui, je sais, c'est pas évident, c'est du live. Que voulez-vous? Et toi aussi, du sport, je crois que tu es un peu atteint comme moi.
Et t'as des disques qui sont prêts là, sur le haut de la pile, donc tu peux prendre le premier direct là, carrément quoi. Et là, t'as le générique, tu peux mettre Doctor Who, hein, y a pas de problème quoi. Comme on aime bien, quoi. Et ça, c'est quand même l'une des premières versions, hein, de toute façon, de Doctor Who. Version que vous connaissez actuellement là est un petit peu retravaillée, on va dire,
mais entre nous, attends, ça date de 62 et c'est vraiment enfin c'est le même niveau que le GRM, le groupement de recherche musicale. C'est étonnant quoi. Enfin moi j'adore.
Allez, on va le laisser un peu. Thank you. Allez, on attaque avec quelqu'un que j'ai oublié de citer la semaine dernière au niveau des nécrologies. Il rigole déjà. Et pourtant, c'est quelqu'un que tu connais et que la plupart des gens connaissent. Hein. Bon, généralement, quand je parle de d'acteurs, ce sont des acteurs de télé, donc pas trop connus. Enfin ouais, bon, ouais. Ou, qui ont des tronches qu'on voit passer comme ça de temps en temps, mais on se souvient pas. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas le même matraquage, si vous voulez, pour ces acteurs que pour des Top Gun, Tom Cruise, des trucs comme ça, DiCaprio et toute la bande. Non, non, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, hein, bon, je veux dire, il y a pas grand-chose de différence, à mon avis. Hein. Bon, et pourtant, bon, bah, c'est quelqu'un que tu connais. Il s'agit de Pat Morita, qui est décédé, qui s'est éteint le 24 novembre dernier. Né en Californie, alors que bon bah vu sa tronche et son nom, tout le monde s'imagine que c'est un japonais tranquille, ou bon du moins un asiatique on va dire, hein, pour rester poli. Il est né pourtant en Californie pendant la Grande Dépression, hein, le 28 juin 1930.
On en a parlé il y a 15 jours.
Ah bon? Non.
Si si, c'est le maître dans Karate Kid.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben je te la fais quand même. Bah, encore une fois.
Vas-y.
Encore une fois. Si si, bah tu vois. Quand même, je m'en souvenais pas du tout, quoi. On le connaît justement de, tu connais de Karate Kid, bien entendu, en 1984, hein, où il avait été, à cette occasion, le premier acteur nommé, à un Oscar. Mais, américano-japonais, hein, c'est-à-dire, catégorie un petit peu, asiatique. Et manque de bol, c'est pas lui qui l'a eu cette année. C'est un autre, et un autre asiatique qui l'a eu, hein, c'est, Heng S'Ngor, qui était l'interprète dans le film de Roland Joffé, La Déchirure, The Killing Fields. Et c'est lui qui a eu l'Oscar, en fait, à la place de Pat Morita. On le connaît également pour ceux qui sont un peu plus vieux et qui ont plus l'habitude des vieilles séries. C'est con, je l'ai pas emmené, j'aurais dû. C'est Arnold le restaurateur dans Rapid Days.
Eh oui.
Eh ouais. C'est de là qu'on le connaît au départ. Hein. Il a également après par la suite, hein, parce que bon bah dans en tant qu'Arnold, il n'apparaît pas dans toute la série. Il est remplacé au bout d'un moment. Hein, c'est-à-dire qu'il y est dans la période 74. 75, 76, il se barre, il fait sa propre série, et il revient en 82, 83 pour des caméos, histoire de gagner un petit peu plus de pognon, tranquille, mais enfin, bon, c'était déjà la fin de la, du cycle, de toute façon, et dans sa propre série, c'est là qu'il est le plus connu aux États-Unis, si tu veux, quoi, quand, tu vas aux États-Unis, tu parles de Pat Morita, les mecs te disent, O'Hara.
Oui, c'est vrai.
Et c'est dans cette série où justement il joue le rôle éponyme, hein, il est lieutenant de police. Il s'appelle O'Hara et interprète ce rôle en compagnie de Rachel Ticotin, qu'on a vu également dans le grand cinéma. Hein. On le voit également pour jouer le bridé de service dans la bataille de Midway. Là, c'est du grand écran, hein, dans Gengis Khan, dans Singapore Sling. Et alors là, c'est assez quand on connaît les rapports qu'ont les Japonais et les Chinois, c'est assez pittoresque parce que bon, c'est quand même lui qui interprète la voix de l'empereur de Chine dans Mulan, le dessin animé. Pour un japonais, enfin de descendance, bon, je veux dire, ok, bon, ben, ça va, quoi. Voilà, rest in peace, donc il s'est éteint le 24 novembre dernier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un petit peu le bordel, hein, je t'avoue, un petit peu quand j'ai préparé mes trucs.
Toi aussi, je vois.
On a quand même quelques petites émissions spéciales à se mettre sous les mirettes avant de parler des séries avec. Cet après-midi, ça commence tout à l'heure, là, dans 1h15. Si vous voulez le voir en direct, mais ça dure 2h, 2h30, tranquille, hein. C'est après, t'as regardé, hein, samedi dernier. Bah oui, tu as vu Miss Languedoc se faire élire et tout. J'ai eu les boules parce que bon, moi je voyais
non,
bien Miss Men.
Je capte pas TF1.
Tu vois, je voyais bien Miss Men et, d'un autre point de vue, tout à fait personnel, je trouvais que Miss Comminges était mieux que Miss Midi-Pyrénées, Midi-Toulousain, quoi. Sans problème.
Enfin, oui, bah, plutôt que tu sortir des prétextes idiots, dis plutôt que tu voulais pas louper le tirage de l'UEFA, mais là, tu en parles dans 15 minutes, donc.
Non, ça a rien à voir. C'était hier soir avec la Star. Donc ça n'a rien à voir, mais par contre celle que vous avez vue qui a coiffé le diadème, hein, qui a remis l'écharpe à mademoiselle Rosenfeld, elle s'appelle Miss Languedoc, et bien c'est Cindy Favre, l'actuelle Miss France, qui donc a cédé son écharpe,
son trône, ouais.
Mais qui va concourir pour Miss Monde cet après-midi à 14h, c'est elle qui représente la France, donc Miss Monde, Miss France 2005 pour le 55e titre de Miss Monde. Ça se passe Eh ben, vu le décalage horaire, ce soir en Chine, donc cet après-midi chez nous.
Ta femme est au courant à propos du deuxième magnétoscope qui est planqué sous le lit là, non, que non, tu as
non,
programmé.
Non, mais il y en a pas. Tout ça, quoi. C'est en direct sur Paris Première cet après-midi, donc à 14h là, de 14h à 16h35, ou alors en décalage plus tranquille, hein, ce soir, un plateau repas et tout tranquille. À partir de 20h50 jusqu'à 23h05. Par contre, on va être un petit peu, circonspect quant au commentateur, car il s'agit de Christophe Roux, que personnellement je connais pas, et de Mademoiselle de Fontenay au commentaire. Donc, ça peut être, ça va rester dans la réserve, on va dire. C'est un petit peu dommage.
Ils auraient pu prendre les queers, histoire de rigoler.
Ouais, mais enfin bon, ok. 111 filles quand même au départ, hein, c'est pas mal, une belle brochette. Ça se passe à Sanya.
Je les ai traités de veau la semaine dernière, et là ils parlent de brochette.
Ah bon, ouais, c'est une expression, hein, c'est une expression, voyons. Ça se passe à Sanya, donc, qui est située sur l'île de Hainan, en Chine. C'est donc cet après-midi, là, tout de suite, là, à 14h, hein, si vous avez pas envie. Vous pouvez laisser la musique de ça, c'est du sport, et puis mettre la télé et regarder ma télé, nana. Ça peut être cool aussi.
Je comprends pourquoi on a installé une télé ici.
Sinon, dans le même genre, on va dire, hein, carrément, hein, c'est mardi prochain. Et c'est une soirée où il va y avoir une soirée de retrouvailles pour les vieux cons, on va dire, et pour les jeunes cons, hein, qui ont envie de devenir des vieux cons, surtout dans le domaine du sport, hein, c'est-à-dire les journalistes sportifs. Et ceux qui font le sport, bien sûr, c'est-à-dire les sportifs, qui seront tous à l'honneur. Ce sera mardi prochain. J'en ai du mal, je bafouille parce que ça me fait chier de présenter ce truc, mais il faut quand même en causer.
Bah
un peu.
Quoi, c'est une bonne émission. Moi, je trouvais sincèrement, jusqu'à la reprise en main en septembre, je trouvais qu'il y avait vraiment une bonne ambiance.
C'est Stade 2, donc justement, célèbre par son ambiance, justement. C'est ce qu'on aime bien dans cette émission, d'ailleurs. Hein.
Mais depuis
c'est l'ambiance, l'espèce de semi-complicité qui devrait exister entre les différents intervenants. Les présentateurs, les spécialistes des différents sports, on va dire, c'est Stade 2 bien sûr, qui fête ses 30 ans, c'est mardi soir donc à partir de 20h50 et jusqu'à tard dans la nuit. Hein, vous avez le temps de vous endormir devant, moi, tranquille.
Moi je regrette la version Gérard Holtz où c'est plus orienté reportage et des reportages qu'on a déjà vus dans le journal du sport sur la 3. Moi je suis absolument pas sport, hein, vous êtes prévenus. Et finalement il y a Soyons Sport sur la 4 qui essaie de reprendre un peu le principe, mais c'est un peu le bordel hein, pour l'instant.
Je vais pas dire que je déteste Gérard Holtz, mais enfin bon, il fait pas partie de mes favoris. Bien, voilà.
Un jour du sport va faire un top 5 sur les journalistes sportifs, ça va être saignant. Allez.
Ok, bon, ça c'est pour les soirées. S'il y a encore des soirées, me semble-t-il. Attends, parce que je te dis, c'est vraiment le bordel. Hein, quand même. Vraiment, c'est une soirée avec la sortie prochaine. Je suis sûr que Thomas, samedi prochain, s'il vient, il nous en parlera de ce film King Kong, qui doit sortir mercredi prochain, c'est ça. Hein,
je ne souhaite te dire, mais je crois, ouais.
Hein, il me semble. Hein, ou alors c'est dans 8 jours, quoi, on va dire, hein, dans une dizaine de jours maximum. Le nouveau King Kong de Peter Jackson qui est vachement attendu. Et 13ème rue vous propose mardi prochain, bah c'est en concurrence avec Stade 2, hein, une soirée King Kong. King Kong avec à 20h50 le film, pas l'original, mais la copie de John Guillermin, King Kong, hein, qui vaut ce qu'il vaut. Puis bon, il y a quand même Jessica Lange dedans, hein, c'est elle, hein, c'est ça, hein, ouais, Jessica Lange. Donc ça vaut le coup quoi, quand même. Un petit peu, le film il est pas bien quoi, franchement. Franchement il est pas bien. Mais il y a Jessica Lange dedans quoi. Alors si vous n'avez pas vu cette version, ça vaut le coup quoi.
Juste une chose, puisque là il faut signaler, je fais un petit aparté.
Oui, vas-y.
Sur les éditions, sur le site des éditions Montparnasse, on peut télécharger librement, gratuitement et sans DRM le film de version 1933, la première qui a été fait, mais version parlée. Puisqu'il y en a eu d'autres, mais qui étaient version muet. Et aussi un autre film qu'on peut choper de la même époque, M le maudit, c'est sur archive.org. On peut le choper en sous-titré anglais, ça c'est pas mal. Je fais juste cet aparté pour une raison toute simple, parce qu'il faut se mobiliser, puisque le 23 décembre, pendant la nuit, l'Assemblée nationale va voter une loi qui va interdire le téléchargement libre des formats sans DRM, c'est-à-dire sans protection, vous savez, les camisoles de force, qui fait qu'on a l'impression d'être un délinquant plutôt qu'être quelqu'un qui a envie de s'amuser. Et voilà, donc moi je fais juste cet aparté, c'est très important là-dessus, je mettrai le lien évidemment.
Voilà, parce qu'il faut signaler que dans le cas des films que tu as cités, hein, c'est des films qui à présent sont libres de droit, hein, il y a peu d'histoires de droit.
Et là, on essaie de mettre des droits partout, n'importe où, ouais, pour n'importe quoi.
Parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une durée, hein, au-delà de 50 ans, c'est terminé, il n'y a plus de droits. Ils estiment que
comme en France,
du fruit du vivant. Non, en France, il y a des droits qui sont illimités, quoi. Hein,
non, c'est 70 ans après la mort du réalisateur.
Non, au niveau des films, mais je parle du droit en général, hein, que ce soit pour les bouquins ou tout, quoi, selon ce que c'est. Il y a des droits qui sont plus ou moins longs, quoi. Alors que aux États-Unis, c'est très court, hein, quelle que soit la matière, le cinéma, les bouquins, les éditions musicales, enfin bon, c'est quand même assez court, c'est 50 ans maximum, quoi. Donc, films-là. Hein, se retrouve dans le droit public. Tu peux les trouver pas cher, des DVD à 5€, 4€, tranquille, avec une petite jaquette, tranquille. Parce que ce sont des films qui sont libres de droit. Il y en a plein comme ça.
Ça a été rallongé à 70 ans, c'est ce que l'on a appelé la loi Disney. Malheureusement.
Merci les gars, merci. Je continue à King Kong, donc avec cette soirée King Kong qui a lieu sur 13e rue mardi prochain. Après le film, eh bien, un petit making-of film de Peter Jackson, hein, yes. King Kong, 22h40. À 23h, un documentaire qui peut être sympathique, qui s'appelle Tracker de l'Extraordinaire, un documentaire sur les cryptozoologues. C'est-à-dire les mecs qui traquent des monstres, mais enfin qui sont plus dans l'imaginaire. C'est-à-dire genre le Yeti, le monstre du Loch Ness, des trucs comme ça. Quoi.
Oui, tout à fait.
Alors bon, ça peut être rigolo. Et à minuit...
C'était pas Heuvelmans, le copain d'Hergé qui l'avait aidé dans... Le célèbre vulgarisateur scientifique belge qui l'avait aidé dans On a marché sur la lune, qui était cryptozoologue, il me semble. Hein.
Là, il s'agit d'un documentaire qui date de 2003, de Thierry Béraud. Hein.
Ah.
Donc, à vérifier, hein, de toute
façon. À vérifier,
sur
mais
pièce.
Je crois qu'il est encore vivant. Donc.
Et c'est pas terminé parce qu'à minuit, eh ben, on vous propose, dans le cadre King Kong préfère les blondes, 6 courts-métrages. Qui ont pour titre la liberté, les poils, la pureté, la vulnérabilité, les mains et la taille. Et toutes ces soirées vous est présentées par Frédéric Bell. Frédéric Bell, c'est la blonde sur Canal+, la minute de la blonde. C'est elle donc qui est chargée de présenter toute cette soirée King Kong sur 13e rue.
Si elle le fait avec son personnage de blonde, ça va être génial.
Ça peut être très très bien, parce qu'en plus, elle aime bien King Kong, hein, c'est un héros.
Elle aime bien les grands musclés.
Il n'y a pas de problème, ça peut le faire. Donc cette soirée King Kong sur 13e rue, mardi prochain, il y aura encore d'autres Canal+, qui proposent, je crois, la semaine prochaine, il me semble.
Ça va être l'invasion, de toute façon.
Un truc spécial King Kong, bref. Vous avez
spécial Screaming Girl, du coup.
Ouais, attends. On va revenir dans du lourd, dans du solide, hein, dans de l'installer, on va dire. C'est-à-dire Star Trek, bien entendu. Car sur Canal Jimmy, tout le mois de décembre, c'est le mois des pilotes de Star Trek, avec la diffusion de tous les pilotes de chaque série dérivée de l'original, les séries dérivées, la série animée Star Trek.
Oui, hein,
donc,
très peu connue.
Très peu connue. Et ça a déjà commencé mercredi dernier, mais enfin, bon, c'est rattrapage demain soir, hein, de Star Trek The Cage. Le téléfilm originel de 1966 de Robert Butler, hein, 1h35 donc, avec pas le Captain Kirk, il n'est pas présent. Captain Kirk, c'est normal, puisqu'il est emprisonné, il a été chopé par des extraterrestres, donc il n'y est pas, et c'est le Captain Pike, Jeffrey Hunter, qui est donc chargé d'essayer de le choper. En compagnie de Suzanne Oliver et du Dr Spock, qui lui est déjà présent donc dans l'original Star Trek The Cage, qui sera diffusé demain soir sur Canal Jimmy en deuxième partie de soirée après The Shield, c'est-à-dire vers 22h30, 22h45. Mercredi prochain, eh bien, nouveau pilote de Star Trek, d'une série Star Trek. Là, il s'agit du pilote en deux parties, donc deux épisodes de cette excellente série. À mon avis, pour moi, personnellement, j'aime pas trop, vraiment, je suis pas un trekkie à fond les manettes, mais c'est une des séries que je préfère, hein. C'est Star Trek Next Generation, avec Patrick Stewart, Captain Picard, Jonathan Frakes, lui c'est le
Data.
Data c'est Brent Spiner.
C'est Spiner, pardon.
Jonathan Frakes c'est le barbu là, hein. Celui qui après a été producteur de Roswell, la série. Et également LeVar Burton. LeVar Burton c'est le mec qui a le black là, qui a le truc ivoirien, quoi, tu vois, quoi. Et c'est le Verbrutton, c'est.
C'est Data, voilà.
C'est.
Non, c'est. Ah, oh, je confonds tout.
Non, c'est pas grave. C'est Kunta Kinte. C'est lui. Ah, mince, c'est le même. Voilà. Donc, dans Star Trek Next Generation, c'est mercredi 20h45. Sur Canal Jimmy et c'est un épisode double qui s'appelle Rendez-vous à Farpoint et il y a également un film, le 10e de la série des Star Trek Nemesis qui passe lundi soir à 20h55 sur TPS Star. Enfin bon, faut pas se jeter vraiment dessus, c'est parce
pas,
que
c'est, il est pas super hein.
On va rester poli quoi. dans la série avec c'en est un avec la même équipe hein, que Next Generation hein, c'est-à-dire Patrick Stewart, toute la bande et tout, enfin dans le même genre. First Contact, c'est quand même le meilleur de la série. Donc c'est parce que ça, bon, franchement, bon, Nemesis, ok, hein, d'accord. Alors ensuite, faut que je tourne les pages à chaque fois, c'est un petit peu zone, quoi, tu vois quoi. Alors ensuite, un petit peu de série, bah tu vois, quand on arrive quand même, ouais, tranquille. Un petit peu de série et pour commencer avec les séries, t'as le deuxième disque là qui doit être là, à mon avis, qui est sur la pile, là, deuxième disque de la pile. Tu me montres un petit peu la gueule que ça. Montre-moi d'abord là, voilà, et tu le mets en long truc et tu mets le premier morceau. Tranquille comme ça là, tu vois, le premier morceau, la première face. Enfin non, c'est un CD, il y a qu'une face. Parce qu'on va parler un petit peu de série et surtout de série policière, on va dire hein, avec
j'ai un site monstrueux
démarre,
pour toi.
Là, ça démarre là. Ça démarre là.
C'est parti.
Alors, ça te dit quelque chose là?
Eh oui, mais je le connais ce morceau.
Ça fait quand même 2-3 bah depuis le début de la diffusion de cette nouvelle série dans la catégorie vas-y, chauffe un peu le son là.
Ouais,
vas-y. Ouais, dans la série Les Experts.
Eh oui, j'ai trouvé un truc pour toi pour Noël, monstrueux. Enfin, c'est pas moi, c'est un copain qui l'a trouvé.
Les Experts donc hein, et ils sont pas fait chier hein, je veux te dire moi Jerry Bruckheimer à mon avis c'est un fan des Who à fond les manettes de toute façon et là il a carrément c'est donc Baba O'Reilly le morceau qui est le premier morceau sur l'album Who's Next et d'où figure également bah le premier morceau Won't Get Fooled Again qui est également sur ce disque hein, Who's Next. Et qui est également le générique, un autre générique de des Experts. Donc,
bah, alors c'est le tout premier.
Who Are You? Alors,
ah oui,
c'est,
non, pardon,
l'album c'est... qui vient un petit peu plus tard, hein, après que Kiss Moon y soit dégommé, quoi. Donc, sans, voilà. Donc, et les Experts, c'est ce soir, donc Manhattan, c'est-à-dire la musique que vous entendez là, la version avec Gary Sinise et Melissa Kanakarides. T'as vu, j'ai je me suis entraîné cette semaine pour le dire à fond, bien et tout. Et là, maintenant, je suis assez fier de moi, quand même. Entre
autres. T'aurais dû chroniquer la précédente saison de 24, alors. Hein.
Ça passe donc ce soir sur TF1 après les plats réchauffés que nous sert Arthur pratiquement tous les samedis soirs.
Et après, pardon, mince Doctor Who, donc ça tombe bien.
Ouais, vers
ça,
23h10.
On arrive à zapper.
Vers 23h10 annoncé, mais enfin c'est plutôt du 23h30 de toute façon, hein, facile, hein, ouais. Sans problème. Hein, de toute façon, pour deux épisodes, le premier Affaires internes, il ne s'agit pas des flics des RG qui viennent foutre la merde dans son équipe. Non, c'est justement une tuerie qui a eu lieu justement dans une commission des affaires internes, il chargé d'enquêter. Et dans un deuxième épisode qui s'appelle Membre à part, là, eh bien, il s'agira eh bien de retrouver les coupables d'un meurtre horrible où des têtes ont été tranchées et retrouvées un peu plus loin, comme ça, dans des sachets plastiques. Pourquoi les mettre dans les sachets plastiques et pourquoi les couper?
Alors, juste une chose, le temporaire est passé pendant le morceau et je l'ai passé très discrètement, mais surtout, c'est un copain qui est fan de la série et qui m'a fait suivre. C'est un site, j'ai pas le droit de faire de la pub donc je donnerai pas le nom, mais il est déjà sur le site, dans les liens, un truc à hurler de rire. Ça s'appelle c'est en fait à tout pour tu as le kit parental détection de drogue, ouais. Tu as du luminol, tu as le petit pinceau. Quand on voit le prix du luminol, on se dit oulala.
Ouais, non, mais c'est ça qui est plus marrant, hein. C'est que ça coûte un œil et puis eux tu les vois allègrement balancés partout. Des fortunes colossales et tout, mais pas de problème.
Et alors,
tu veux un ADN, tu l'auras demain matin. Non, tout à l'heure même.
On vous livre par la poste et vous vient dans un sac de scellé. Et alors, c'est énorme. Rien que pour ça, franchement, on va passer commande.
Voilà.
Pour délirer.
Les experts Manhattan, il y a également les experts Las Vegas, donc
ouais.
Celle dont on parlait avant, hein, l'original. Donc avec, ça passe tous les dimanches sur TF1 toujours. Demain après-midi à 16h05, là il s'agit d'un épisode de la saison 3 qui s'appelle La Fièvre de l'Or, hein, demain soir. Donc j'ai été un petit peu déçu pendant les deuxièmes épisodes de NYPD Blue de lundi dernier. Pourquoi? Tout simplement parce que les scénaristes se sont cru intelligents en virant un petit peu Kubeni. Hein, dans le rôle qu'interprète Andy Sipovich, parce que carrément là dans cet épisode il revoit Bobby Simon, c'est-à-dire Jimmy Smith, comme ça il rentre dans son vestiaire et tout seul parce qu'il a un petit peu les boules, parce qu'il y a pas mal d'événements liés à sa vie personnelle et professionnelle qui commencent à interférer grave. Et il commence vraiment à chauffer grave de la cafetière. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une apparition de Bobby Simon qui est en train de lui expliquer que oui, il faut croire et tout. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui nous protège et tout. Alors là, t'es vraiment déçu. Là, franchement, quoi, c'est le soufflet qui retombe, plah, d'un seul coup comme ça. Alors il va falloir que ça confirme que c'est quand même pas n'importe quoi, hein, pour cette dernière et 12e saison, mais il paraît que il se rattrape quand même dans les épisodes à suivre. Donc c'est lundi sur Canal Jimmy à partir de 20h45, hein, et on espère un prompt rétablissement pour Sipovich avec ces deux épisodes terrain sous surveillance. Sipovich, il l'emmerde et tout, quoi. Alors le nouveau capitaine là, au départ c'est un enculé de première, hein, Curry Graham, là c'est un connard fini, mais enfin bon, en plus c'est un mec qui vient des affaires internes, donc tout le genre de personnage que Sipovich peut pas encadrer parce qu'il s'est fait emmerder comme c'est pas permis par ces gens là et voit débarquer comme supérieur un mec qui vient des affaires internes, donc et en plus super à cheval sur le règlement à fond, les manettes, enfin le mec il croit halluciner au départ, et au bout d'un moment tu commences à dire ouais, le mec il commence à faire un coup de main comme ça, à faire des petits trucs à droite à gauche, tu vois, à faire esprit de corps, on va dire, et il commence à devenir un petit peu intéressant, quoi, parce que bon, il a une tronche, il a une bonne tronche, quoi, on va dire, quoi, quand même, quoi, alors que vraiment le personnage au départ est désagréable au possible, enfin bon, pète sec, enculé de première et tout, enfin bon, pas mal, quoi. Et on l'a revu, je l'ai revu cette semaine à la télé dans un téléfilm où il a les cheveux un peu plus longs, chemise hawaïenne et tout. Ah bah, ça n'a rien à voir, je peux te dire comment c'est tout à fait différent, hein, ce monsieur qui s'appelle Curry Graham, qui interprète le rôle du patron donc de Sipovich. Et donc il y a témoin sous surveillance, c'est lundi, et le deuxième, le sacrifice, parce qu'il faut savoir que le détective Black qui est dans NYPD, hein, joué par Henry Simmons, le Baldwin Jones, là il a des problèmes parce que il est en train d'essayer d'adopter un petit gamin que son père essaie d'entraîner dans la zone parce que son père est un alcoolique et tout le bordel et tout. Et là bon bah ok, ben il apparaît que le père il essaie de se racheter et tout, son père qui a tué la mère du gosse, hein, devant les yeux du gosse. gosse. Le gosse, ça y est, passé au tribunal, ça s'est un petit peu mal passé. Le père a été acquitté, donc le gosse a vu et sait que le père a tué. Tout. Le père essaie de récupérer son gosse et là, l'épisode s'appelle Le Sacrifice. Que s'est-il passé? Car on retrouve le père mort. Est-ce l'inspecteur Baldwin Jones qui a décidé de se sacrifier tout simplement pour que ce gosse puisse vivre, puisse se développer, hein, puisse grandir et une éducation normale, bah, il faudra savoir lundi sur Canal Jimmy dans NYPD Blue. Il y a également du lourd qui va débarquer mardi prochain sur Canal Plus, hein, c'est une nouvelle série à la française et avec on va dire un traitement un petit peu différent. On a eu des prémices comme ça, hein, qui étaient vachement encourageantes. Les deux premières saisons de PJ par exemple sur France 2, hein, puis après les petites séries dérivés qui ont fait les vendredis soirs sur France 2, hein, je veux dire Avocat au palais, enfin toutes ces séries là.
Ou même celle qu'a produite M6 là, qui a été faite par Kappa Fiction là, qui était absolument bluffante.
J'allais venir, hein, pour l'instant je suis encore sur France 2 quoi. Enfin bon, je veux dire France 2, il y avait déjà comme ça des petits prémices, hein, mais c'est se libérer un petit peu du carcan du gentil flic et de la fin heureuse. On a eu la déflagration avec Police District, hein, qui a duré deux saisons. Enfin bon, que dire, hein, deux saisons, il n'y a pas de problème. Hein, s'il n'y a que deux saisons pour que des bonnes séries comme ça, il n'y a pas de problème. Hein, faut qu'il y en ait vachement plus, c'est tout. Hein,
ah ouais.
Hein, on est demandeurs, hein, sans problème. Et là, ben, c'est sur Canal+, hein, c'est produit par Canal. Il y a du pognon dessus. Hein, je crois qu'il y a un pognon énorme, hein, qui a été fait pour cette série en 8 épisodes. Où là, on prend vraiment le format américain, c'est-à-dire 52 minutes. Mmh. Et ça s'appelle Engrenage, hein. L'histoire est claire au départ. Une nana inconnue est retrouvée morte dans une benne à ordures. Et là, eh bien, on va pouvoir suivre les différents intervenants, le flic, les flics chargés d'enquêter, la justice, le juge d'instruction, que se passe-t-il, des suspects, tout ça développé sur 8 épisodes. Donc c'est vachement ambitieux, hein. C'est un truc hyper ambitieux qui a coûté pas mal de pognon, hein, avec Greg Héroï. Avec, pardon, Grégory Fitoussi, avec Philippe Duclos, Audrey Fleureau, Fred Bianconi, Thierry Godard, des noms qu'on connaît pas trop, hein, de toute façon, qui sont pas trop marqués par un rôle dans une autre série, dans une série précédente, ça peut promettre vraiment très très bien, hein. On attend de voir, hein, de toute façon, c'est mardi prochain, donc, avec deux épisodes par mardi, à partir de 20h50 sur Canal+. Alors, est-ce qu'il y a encore du polar, hein, de derrière les fagots? Ouais, et c'est encore de l'inédit, mon gars, pour terminer, pratiquement, avec une série comme ça qui sort pratiquement en catimini, il n'y a pas eu tellement de pubs et tout, on s'en fout, et pourtant, c'est également une série, mini-série, on va dire, hein, puisque bon bah c'est un cycle de 8 épisodes, mais il y a une fin, après il n'y a pas de deuxième saison, que dalle, hein. Elle est proposée par deux des producteurs qui ont fait la meilleure série de polar, on va dire, des années 80, une des meilleures séries polar des années 80, j'avais oublié, comme, oh là, j'allais oublier, wise guy, quand même, faut pas déconner, c'est Anthony Yerkovitch, c'est-à-dire Miami Vice, et David Milch, NYPD Blue, dont je parlais juste avant, qui sont associés pour sortir cette mini-série qui s'appelle Big Apple, donc ça se passe encore à New York.
Aïe,
les boules. Et là, ben, les méchants, on les recherche pas parmi les méchants traditionnels, c'est-à-dire le black du ghetto, le portoricain de Spanish Harlem, ou le bridé de Chinatown. Non, on les cherche au sein de la police, hein. C'est un petit peu une espèce de guerre des polices, hein, qui va se livrer. Donc, comment se livrer les différents intervenants de cette mini-série qui s'appelle Big Apple.
Ce qui est quand même une réalité dans la police new-yorkaise au début des années 90, où ils ont eu énormément de scandales de ce côté-là.
Il y a eu beaucoup de scandales. Ouais. Alors là, toujours, ça c'est le truc récurrent, nous on rigole quand on voit ça dans un film et tout. Quand t'as le flic qui est là, le bon flic du patelin qui essaye de faire son enquête, et puis hop, t'as le FBI qui débarque. Non, mais c'est une affaire fédérale. Dégage, Pecno, c'est nous qui on est les meilleurs et tout. Alors c'est un petit peu ce genre de guéguerre, donc avec là du lourd au niveau des acteurs. Ed O'Neill, on ne présente plus, hein, c'est Al Bundy. Al Bundy dans Marié deux enfants, et également dans LA Dragnet. La nouvelle version hein, qu'on peut voir sur TF6 tous les mercredis. Il y a également Titus Welliver. Alors lui, je vais vous faire un topo spécial, je pense, la semaine prochaine. Parce que bon, lui, on l'a vu en récurrent dans Brooklyn South. Une autre série dont je me souviens pas, mais avec l'histoire de flic infiltré où lui jouait un mec de la mafia. Et également, il a fait des apparitions dans toutes les bonnes séries. Hein. De toute façon, t'en fais pas. Hein. Je te ferai la liste la semaine prochaine. C'est comme les autres hein, que je t'ai cité, Ray Wise et tout, hop, ils les ont toutes faites. Michael Madsen également, Jeffrey Pierce, Donnie Wahlberg, c'est Boomtown, hein, le frangin de Mark. De Marky Mark et David Stratham, tout ça donc dans cette série Big Apple qui sera diffusée très tard, 22h50 le mercredi sur Paris Première.
T'appelles ça tard, franchement ils nous ont habitués à pire.
Non, mais attends,
le 24 qui commençait à 1h du matin le mercredi soir, c'était pas triste non plus. Enfin bon, du sport a fini, je suppose. Non ?
Ah non, le personnage du jour, mon gars, le mec dont la tronche. Alors là, c'est une tronche que vous avez vue, sans problème. Là, j'ai choisi quand même du lourd, du calibré, du que tu reconnais immédiatement. Hein, s'agit de Terry O'Quinn. Terry O'Quinn, hein, qui doit surtout sa renommée à son apparition et à sa nomination d'ailleurs aux Emmy Awards de cette année. Pour sa participation à la série de J.J. Abrams, Lost. C'est lui qui joue le rôle de Loki. Tu sais, c'est le chauve qui, quand il tombe de l'avion, normalement, il est dans un fauteuil. Et quand il tombe de l'avion, il peut se relever. Et ensuite, c'est lui qui part avec l'autre dans la jungle et qui découvre l'espèce de capsule enterrée et qui essaye de péter le hublot qu'il y a. Mais il n'arrive pas à péter le hublot et tout. Et tu sais, c'est le mec qui...
Je n'ai pas vu Lost.
Ah, merde. Bon, bah, ok. Bon,
ils ont une telle mauvaise critique que voilà, je pouvais pas le regarder.
Mais tu fais comme moi, tu te fous à côté, tu lis un bouquin, puis en même temps, t'as l'os qui passe. Comme
bon,
ça,
alors on va résumer les soirées télé chez du sport, un soir de match de championnat. Il est en train de zapper entre TPS Star et Paris Première en même temps qu'il est sur TF1. C'est une horreur. Et en même temps, il prend le temps de lire. Hein, vous voyez, c'est une horreur.
Donc pour les gens qui ont vu Lost, il y a pas de problème, ils ont repéré le mec hein, de toute façon quoi, c'est l'un des plus vieux de la distribution en plus hein, de toute façon. En fait, son histoire hein, dans Lost, c'est que il connaît pas son père et tout, il a un boulot un petit peu ennuyeux et il y a son père qui vient le voir et puis qui lui dit ouais, j'ai un problème et tout quoi, je vais crever, j'ai besoin d'un don de moelle osseuse ou d'un truc comme ça et tout quoi, il y a que toi qui peux me filer hein, tout le bordel. Alors son père, il l'a largué quand il était gamin parce que bon, il est parti avec une autre nana, enfin bon, bref. Quoi. Et son père est effectivement très très riche en plus, tu vois, bon, ce qui est bien quoi. Et le mec au départ il sait pas trop parce que bon bah c'est un mec qu'il a jamais connu hein, je veux dire il l'a jamais eu quoi, en disant papa et tout, donc il a du mal. Et puis au bout d'un moment, ok, il se dit bon bah je fais quand même la greffe et tout, il fait la greffe et tout quoi. Et puis bon, en fait après son père le vire, le dégage comme un malpropre et tout, lui il commence à avoir des problèmes et tout quoi. Et justement c'est après cette opération de greffe qu'il tombe malade et qui perd l'usage de ses membres inférieurs et qui est obligé de se foutre en fauteuil roulant. Et après il y a là j'ai pas tout suivi, mais enfin c'est à cause de cette histoire de fauteuil roulant qu'il est obligé de prendre ce fameux avion hein, qui va s'écraser. Ah voilà quoi,
hein. Pas de bol.
Ok. Bon voilà, Terry O'Quinn donc hein, qu'on connaît également parce que il est quand même un petit peu privilégié. C'est un pote à Chris Carter. Et quand on est pote à Chris Carter, mon Dieu, je veux te dire, ça aide pas mal quand même. C'est le producteur de X-Files. Ouais. Ce qui fait qu'on ne l'a pas vu dans un rôle récurrent dans X-Files. Il est néanmoins apparu quand même à deux occasions, dans deux épisodes. On l'a vu également. Il a eu un rôle dans le film, X-Files The Movie. Hein. Et par contre, au niveau rôle récurrent, c'est dans Millennium qu'on l'a vu dans un rôle récurrent. Également dans la série qui n'a pas trop marché de Chris Carter, mais qui promettait bien. Moi j'ai bien aimé, qui s'appelait Arch Realm, où il jouait le rôle du colonel Santiago. Hein. Arch Realm, c'est vraiment de la série pas mal. Hein, vraiment, c'est dommage, il y a eu 8-9 épisodes, ça n'a pas marché. Puis bon, les studios ont dit ciao, tu dégages, tu t'appelles Chris Carter, peut-être X-Files, ça marche à fond les manettes en ce moment, mais ça marche pas, dégage. Et puis bon, il a fait Millennium après, quoi, justement, Chris Carter. Il est acteur dans Lost, mais également dans Alias, où on a pu l'apercevoir, hein, parce que bon, c'est un petit peu aussi un acteur fétiche de J.A. Abraham. Il s'appelle pas vraiment Terry O'Quinn, il s'appelle de son vrai nom Terrence Quinn. Et en fait, il a changé son nom parce que quand il a commencé à jouer et à vouloir être acteur, eh bien, il y a déjà un acteur qui s'appelait Terry Quinn.
C'est ce qui me semblait. Et donc,
comme il est quand même de d'ascendance, on va dire irlandaise, pas de très loin, et c'est pour ça qu'il a pu changer son nom et rajouter le O'Quinn devant, quoi, sans que tous les Irlandais d'Amérique lui tapent sur la gueule, lui disant attention, fais pas le con. Au ciné, il a également fait quelques apparitions, mais enfin bon, c'est pas trop top. Pourtant, bon bah ok, hein, quand je vous ai dit Loki. Vous avez repéré que c'était quand même l'un des personnages principaux et l'un des personnages bien énigmatiques hein, de cette série Lost, pour ceux qui aiment bien la série. Voilà, j'ai presque terminé. Sinon, je parlais de polar avant, il y a un excellent polar dans l'équipe magazine de cette semaine. Alors, si au contraire de l'équipe Le Quotidien, hein, qui bon, ok, c'est ce que c'est quoi, au niveau littérature, quoi, hein, ok, et au niveau qualité.
Oh, c'est quand même bien écrit.
non, justement.
Ah pardon, non, l'équipe.
C'est plus terrible. C'est plus terrible. Par contre, l'équipe magazine, hein, ça a toujours un bon niveau, moi je trouve, quoi. Pas de problème. Il y a souvent des articles très intéressants. Et là, c'est du polar carrément, hein. Marco Pantani, l'hypothèse de l'homicide. Ouais, on a retrouvé Marco Pantani, je vous rappelle, on a dit au départ overdose, autopsie, tout le bordel et tout. On a arrêté un dealer, le dernier dealer, alors lui avoir filé de la cam. Il a pris 2-3 ans ou 5 ans, enfin bref, il a bien payé. Mais l'overdose, ben c'est pas encore évident. Tout ça donc dans cet article sur dans le numéro de l'équipe magazine, enfin qui est vendu avec l'équipe du samedi. Voilà, c'est terminé. Ben je vais passer de l'autre côté, hein, puis on va parler un petit peu de football, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ?
Eh ben on y va. Et en plus aujourd'hui je me suis bien planté, et si vous avez manqué le début, le résumé de l'émission, eh bien il y a eu deux jolis petits plantages. Il n'y a pas eu vraiment eu de descente en flamme, mais bon, quand même aujourd'hui ça n'a pas été tip top. On a dépassé de 19 minutes à l'instant, et ben bon, franchement on devait faire mieux, on était censé faire beaucoup moins, et là bah tant pis, hein, que voulez-vous. Ça va être à du sport, il va vous parler bien évidemment du tirage de la FIFA, mais pas que de ça, loin de là. Ensuite, et ben à 15h ce sera du reggae avec Zarma Farah, 17h Vie d'ordure, c'est du punk, 19h Dada, 20h la Stétéro Experience, 21h30 Liquid Sky, 22h30 jusqu'à 3h du matin Breakbeat Experience. Bah ça tombe très très bien. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a vraiment beaucoup, pas mal de morceaux jungle que l'on entend dans CSC New York. Donc après tout, le set de Peyo et SKS, ils iraient très bien ensemble, je pense. Voilà, je vous la see you. Rendez-vous la semaine prochaine à partir de midi. Thomas sera là, normalement. Il n'y aura pas trop de soucis. Vous pouvez réécouter les émissions sur www.radio-fmr.net. Et ceux qui nous suivent sur le podcast en différé, ben, sachez qu'ils vont avoir droit en bonus à la première heure de du sport. Eh, c'est pas de bonheur, ça, hein, franchement. Allez, hop, see you. Bien à vous, à plus. Portez-vous bien et faites gaffe. Dehors, il fait froid.